en France, Denis Farou, Frédéric Le Tournier.
Vous avez bien sûr reconnu Jane qui a chanté lors de l'ouverture de la Coupe du Monde en France. Alors avant le quart de finale de la Coupe du Monde ce soir au Parc des Princes à Paris, on veut savoir à qui on a affaire sur le terrain. Qui sont ces Américaines qui paraissent si fortes, si assurées quand elles prennent la parole et qu'est-ce qu'elles représentent dans leur pays?
Dans ces cas-là, la solution, c'est de prendre la température sur leur terrain. Aux États-Unis.
Nous sommes sur la côte ouest avec un journaliste correspondant pour la presse française installé à Los Angeles. Bonjour Romain Delbello.
Bonjour.
Vous connaissez bien les deux pays. Vous voyez une réelle différence sur l'implantation du foot féminin en France et aux États-Unis, Romain ?
Ah oui, c'est incontestable. Il y a une vraie différence. Vous savez, ce qu'on dit souvent aux États-Unis, c'est que le soccer, puisqu'on l'appelle le soccer et non pas le football, c'est un sport de filles, c'est vu comme un sport de filles depuis très longtemps, même s'il y a beaucoup de garçons qui jouent, il faut le savoir, mais ça, c'est un sport qui paraît évident pour les jeunes filles lorsqu'elles veulent commencer à faire un sport quand elles sont jeunes. Le championnat pro a démarré il y a plus de 20 ans aux États-Unis, alors qu'en France, on voit bien que c'est beaucoup plus récent. L'avantage pour les filles, finalement, avec le soccer, c'est qu'il y a moins de concurrence avec les garçons. Pour le basket ou le baseball, ça paraît moins évident pour une fille d'aller faire du baseball qu'un garçon. Donc le soccer paraît une bonne solution pour les parents aussi de mettre les filles au football. Et on peut jouer au football, au soccer, hein, j'utilise le terme américain parce que pour eux il y a une vraie différence, mais on peut jouer facilement parce qu'il y a des terrains dans les écoles, il y a des camps d'été. C'est assez accessible le football pour les filles aux États-Unis et ça paye parce que, vous l'avez dit, les Américaines sont favorites. Elles visent une quatrième victoire en Coupe du Monde et elles ont évidemment grandement confiance en elles.
Cet engouement, Romain, il vient aussi des universités. Là-bas, le sport a une grande place, une grande importance lors des études.
Le sport, c'est énorme aux États-Unis, hein, c'est vrai. L'université, c'est un peu le haut de la pyramide parce que ça démarre encore plus bas et plus tôt. Entre 300 et 400 000 filles qui jouent au foot au lycée et environ 40 000 joueuses dans les universités. Donc évidemment, ça crée tout un vivier de joueuses pour le haut niveau. Elles sont là pour la passion, mais il ne faut pas se leurrer. Elles sont aussi là pour l'aspect financier, parce que vous savez que les études sont très chères aux États-Unis et que avoir un sport à l'université, ça vous permet, quand vous êtes dans les meilleurs, d'avoir une bourse.
Alors nous, en France, on a appris à connaître Amandine Henry, Wendy Renard ou Eugénie Le Sommer. Mais aux États-Unis, il y a de vraies stars dans l'équipe. Et je pense à Megan Rapinoe, celle qui se permet d'interpeller Donald Trump sur les réseaux sociaux, par exemple.
Ouais, oui, elle se permet beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, à la caméra même. Effectivement, il y a des stars depuis longtemps dans le foot, dans le soccer féminin aux États-Unis. Il y avait eu Mia Hamm, il y avait eu Hawke Solo qui étaient déjà les premières stars. Et effectivement, la capitaine Megan Rapinoe qui a fait un passage à Lyon, qui est venue jouer un petit peu en France,
oui, c'est vrai.
Qui est une forte tête, qui est la capitaine. Elle est facilement reconnaissable avec les cheveux violets, avec le numéro 15.
Donc les cheveux courts, ouais.
Voilà. Elle tient les pénaltys, celle qui a qualifié quasiment les États-Unis contre l'Espagne en marquant deux buts. Et c'est vrai c'est un personnage. Elle a dit qu'elle n'irait pas à la Maison-Blanche en cas de victoire, ce à quoi le président a répondu qu'elle gagne déjà la Coupe du Monde, on verra après si elle a le droit de venir ici.
Romain, quels sont leurs atouts d'un point de vue plus sportif et pourquoi on dit qu'elles sont les meilleures ?
Elles sont les meilleures parce que elles pratiquent le foot depuis très longtemps, donc elles ont démarré très jeunes. C'est la grosse différence avec la France qui rattrape petit à petit son retard. Et puis ce sont des vrais athlètes, c'est-à-dire que quand Alex Morgan, si vous jouez contre elle, c'est une vraie athlète. Elle va démarrer un sprint, elle va mettre tout le monde d'accord. Elle est physiquement prête, c'est une athlète de haut niveau, comme tous les autres sports, alors qu'en France, le football féminin, on le voit bien, ce sont des athlètes de haut niveau aussi, mais ça part de plus loin.
Puisqu'on vous dit qu'elles sont les plus fortes.
Oui.
Romain, les Américains suivent à distance cette Coupe du Monde en France avec quand même le décalage horaire. Il sera 15h à New York au moment du coup d'envoi de France-États-Unis et midi chez vous sur la côte ouest.
Oui, ça c'est un petit souci, clairement, il faut le dire, notamment par rapport à la Coupe du Monde il y a 4 ans qui était au Canada. Donc là, les horaires étaient absolument parfaits pour les Nord-Américains. Il faut savoir que les audiences télé de la Coupe du Monde sont quand même en hausse, en moyenne, malgré ces horaires qui sont moins favorables. Pour vous donner une idée, le match États-Unis-Chili, lors du premier tour, a fait quand même 5,5 millions de téléspectateurs. Et évidemment, ça va aller crescendo au fur et à mesure de la compétition, notamment contre la France, parce que là, c'est un gros choc, et ils le savent bien. Et pour vous donner une idée, la finale en 2015, contre le Japon a quand même fait 26 millions de téléspectateurs.
Les Françaises ont fait 10 millions à chaque fois.
Eh oui, Romain Del Bello, moi j'ai une question plus personnelle. Vous soutenez quelle équipe du coup?
Mais les Français.
Oui, mais vu à Los Angeles.
Ah, c'est dur.
Alors?
Ah, c'est dur. C'est très dur. Non, bah, la France, ça, à la limite, j'ai même pas de vision de supporter. Je trouve que c'est une superbe affiche qui arrive au bon moment, un petit peu tôt en quart de finale, finalement, parce que même les Américaines, la manière dont elles vendent le match, on a l'impression que c'est la finale avant la lettre, alors qu'il reste quand même de grosses nations comme l'Allemagne ou l'Angleterre. Non, c'est très marrant, c'est de voir la différence effectivement entre les Américaines qui sont sûres d'elles et puis de l'autre côté les Françaises et ce foot français féminin qui est en train d'éclore, qui est en train de se découvrir une identité, une passion. Donc c'est moi ce qui m'intéresse, c'est le décalage entre les deux et peut-être le choc, la surprise au final dans ce quart de finale qui sera assez incroyable.
Mais donc finalement,
il n'a pas répondu du tout.
Oui, donc c'était une bonne question.
Oh, merci pour le finalement, dites donc.
En tout cas, on connaît un peu mieux ces footballeuses américaines que nous rencontrons ce soir à Paris.
Merci infiniment de nous avoir accordé du temps depuis les États-Unis et Los Angeles. On vous souhaite un bon match dans tous les cas, Romain Del Bello.
Je vous remercie.
À bientôt. Au revoir.
Et au revoir.
Au revoir, Isabelle.
France Bleu. Une heure en France.
Ça va, vous ne vous êtes pas fait mal, Denis Farron, en faisant une tête là?
Je suis un spécialiste de la tête, je jouais arrière central à l'époque.
D'accord. Nous sommes maintenant en Gironde, à une trentaine de kilomètres de Bordeaux, et on va se mettre un petit peu au frais dans le château de Cadillac, un édifice construit au XVIIe siècle par le premier duc d'Épernon.
Oui, et un château qui accueille un roi dans l'histoire en ce moment, une expo Henri IV.
On fait la visite ensemble avec son administrateur pour le Centre des Monuments Nationaux. Bonjour Olivier Dupéra.
Bonjour.
Vous nous rappelez qui était le duc d'Épernon?
Alors le duc d'Épernon, c'est un cadet de Gascogne, au sens propre du terme, qui va se retrouver en moins de 10 ans propulsé au rang de demi-roi, et donc de duc et pair de France. Donc une ascension fulgurante à l'époque des guerres de religion. Et il va avoir cette autre caractéristique de vivre jusqu'à 88 ans, donc de connaître 4 règnes et 2 régences.
Et pourquoi une ascension aussi fulgurante?
Oh bah parce qu'il est un grand militaire, qu'il a su se placer et qu'il est particulièrement stratège à une époque assez trouble pour l'histoire de France.
Alors c'est un château qui a une histoire assez folle. Il a accueilli des tas de c'est pas très joli ce que j'allais dire, des tas de familles royales, beaucoup de familles royales. Et puis ensuite il a failli être détruit, il a été sauvé, on le visite aujourd'hui, il accueille beaucoup de monde. C'est une histoire assez incroyable.
Oui, il y a une double histoire au château de Cadillac, effectivement une double histoire assez passionnante, puisque c'est d'abord un grand château d'apparat du début du XVIIe siècle, qui va accueillir effectivement Louis XIII, Louis XIV, Molière, enfin toute la cour et les grands de l'époque. Et puis il va tomber en déshérence et à l'abandon, il est promis à la démolition, heureusement il n'est pas démoli dans son intégralité, et au XIXe siècle il est transformé par l'État et il va accueillir la première prison pour femmes de France. Donc il y a cette double histoire entre un château ducal d'apparat de prestige considérable et puis un lieu de détention tout à fait effroyable et sordide jusqu'aux années 1950.
Allez voir à quoi ressemble le château de Cadillac sur francebleu.fr. Mais est-ce que vous pouvez nous le décrire, qu'on ait déjà une idée en tête, Olivier Dupéra?
C'est un château d'architecture à la française, donc on est sur des plans très symétriques, hein, avec une grande cour d'honneur, et puis ensuite un bâtiment qui se visite sur 4 niveaux, 2 niveaux qui sont consacrés à l'histoire historique et l'histoire ducale, voilà, sur le rez-de-chaussée et le premier étage, avec des collections d'époque, et puis un dernier étage sous les combles qui rend compte de ce passé carcéral du château, donc de la prison.
D'accord.
Et enfin les sous-sols où on peut déambuler au frais, puisqu'il fait particulièrement bon.
Vous êtes au château là ou pas du tout?
Pas aujourd'hui, non.
Pas aujourd'hui. Mais vous êtes au frais quand même, rassurez-nous.
Oui.
On a bien compris le conseil visite du château de Cadillac en période de canicule, en tout cas. Il a été construit sous Henri IV. Il y a d'ailleurs une expo Henri IV en ce moment, mais le roi n'a pas connu le château de Cadillac.
Absolument. Le château, la construction a démarré sous Henri IV et s'est terminée sous Louis XIII. Mais comme vous le savez, évidemment, Henri IV a été assassiné en 1610. Et donc, il n'a pas pu voir le château terminé. Et donc, il n'a pas pu y descendre visiter le duc d'Épernon. Et c'est Louis XIII, en 1620, qui sera le premier à visiter ce château, qui, pour l'époque en province, est un des châteaux les plus importants qui soit construit et les plus richement décorés.
Il a été saisi à la Révolution, en fait, ce château?
Absolument, oui. C'était un... c'est devenu un bien national à la Révolution, après la Révolution.
Et quand est-ce que la lignée s'est éteinte ?
À la lignée, ça s'arrête très vite parce qu'en fait, le château engloutit une fortune pour être construit. Mais le premier duc d'Épernon a trois fils, mais deux d'entre eux meurent avant lui. Mmh. Et le second duc d'Épernon a lui-même un fils qui meurt avant son père, donc dès 1661, donc une génération après la fin de la construction du château. Il se retrouve à l'abandon au moment même où Louis XIV d'ailleurs arrive sur son règne personnel et de la fin du 17e jusqu'à la Révolution finalement il passe de main en main auprès de collatéraux éloignés qui ont absolument pas les moyens d'entretenir un château de cette envergure-là et de cette richesse-là.
Le château de Cadillac aux environs de Bordeaux, au sud-est de Bordeaux et l'expo Henri IV, un roi dans l'histoire, je suis sûr que c'est une histoire qui a plu à Isabelle, l'auditrice de Dordogne.
Ça c'est certain. On peut le visiter tout l'été, Olivier Dupéra. Il est ouvert tout cet été.
Absolument. Le château est ouvert toute l'année et l'exposition Henri IV, un roi dans l'histoire qu'on a monté avec Versailles, est présentée jusqu'au 29 septembre.
Est-ce que vous allez regarder le match de foot ce soir, Olivier ?
Bien sûr, je vais regarder le match de foot et soutenir les Bleus, même si on est derrière un panache blanc en ce moment à Cadillac avec Henri IV.
Ah, mais très bien. Très jolie réponse. Merci Olivier Dupéra, on vous souhaite un bel été à Cadillac. À bientôt.
Je vous en prie, merci beaucoup.
Merci, au revoir.
Une heure en France. Frédéric Le Ternier, Denis Farou sur France Bleu.
Et oui, on a décidé de prendre l'apéritif avec vous tous pour refermer cette saison d'une heure en France. On aurait pu trinquer tout simplement, mais vous nous connaissez maintenant. Hein. On a cherché l'origine de l'apéro.
L'histoire de ces moments très sympas qui prennent toute leur importance et notamment quand arrive l'été.
Pour parler de l'apéritif, nous faisons appel à la rédactrice en chef de Cuisine et Vins de France, le magazine, qui a sorti un hors-série pour l'été avec des apéros, des pique-niques, des barbecues et des desserts. Bonjour Sophie Menu.
Bonjour à vous Frédéric et Denis.
Est-ce que c'est ancien l'apéritif Sophie ? On peut remonter jusqu'à quand ?
Ah c'est très 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 vieux. Moi en tout cas j'en ai retrouvé des traces au temps des Égyptiens qui rentraient, quand ils rentraient des champs après avoir laborieusement travaillé et qu'ils étaient fatigués, ils s'octroyaient en fait une petite bière. Alors à l'époque elles étaient tièdes hein, les bières, avec une poignée de dattes. Et c'était peut-être les précurseurs de l'apéro et de la convivialité.
Alors il y a l'Égypte ancienne, hein, Sophie, il y a aussi les Celtes, les Romains, les Grecs. On retrouve des traces d'apéritifs dans toutes les civilisations finalement.
Exactement, en fait, il n'y a pas un pays qui peut revendiquer plus qu'un autre cette habitude, parce que je crois que l'apéritif, comme vous l'avez dit, c'est aussi la convivialité, c'est synonyme de partage, de bons moments, et ça existe dans tous les pays.
Mais alors, l'apéritif est devenu une coutume chez nous, en tout cas, et des étrangers parlent parfois d'un savoir-faire à la française. Vous pensez qu'on prend plus l'apéro que nos voisins ?
Ah oui, ça c'est sûr, on prend beaucoup plus l'apéro parce que nous, les Français, nous savons prendre le temps et nous retrouver autour d'une table. Et souvent, on m'a dit qu'à l'étranger, les gens prennent moins ce temps. Alors, dans les pays méditerranéens, je pense qu'ils sont un peu comme nous, mais c'est vrai que dans les pays anglo-saxons où on fait plus part à l'efficacité, c'est vrai qu'on prend moins le temps, on passe tout de suite à table, alors que nous, on aime bien que ça traîne, on aime bien refaire le monde, et puis aussi parler de ce qu'on va manger d'ailleurs.
Oui, c'est vrai.
Pendant l'apéro.
Ah bah, du coup, ça glisse un petit peu hein, aujourd'hui vers l'apéritif dînatoire. D'ailleurs, je dois vous dire que Denis en a organisé un la semaine dernière, on s'est tous régalés.
Oh, je vous
mais,
en prie.
Mais c'est vrai que du coup,
on finit
tous par dîner autour de cette table apéritif avec plein de bonnes choses, des petites choses qui se dégustent avec les mains, les amuse-bouches, mais on a bien dîné pour autant.
Oui, 90% des Français en fait avouent prendre régulièrement l'apéritif. Et plus de la moitié en fait aimerait presque que ça devienne une façon de se nourrir. Et si vous regardez autour de vous dans les restaurants, il y a de plus en plus de formules comme ça où vous pouvez poser à table. Alors on peut l'appeler tapas en Espagne ou en France, d'ailleurs on peut l'appeler mezée au Moyen-Orient, mais ce sont des petites portions qu'on déguste le plus souvent avec les doigts.
Alors, quand vous dites que 9 Français sur 10 organisent régulièrement un apéritif, le problème c'est le régulièrement, on ne sait pas si c'est tous les soirs.
Oui, ça pourrait en tout cas, avec cette météo qu'on a, c'est sûr que ça va être tous les soirs. Mais il faudrait le continuer aussi aux jours plus frais, parce que ça reste un moment de partage. Et qu'est-ce qui est mieux dans la cuisine que de partager en fait un plat avec ses amis, non ?
Bah oui, on est bien d'accord, Sophie. Il y a eu un moment, les boissons à l'année avaient vraiment le vent en poupe. Il y a eu une période aussi où on parlait beaucoup de bière. Aujourd'hui, un apéro, c'est aussi un verre de vin, peut-être le vin, l'autre verre qu'on va boire en dînant après.
Oui, c'est un verre de vin, mais il y a quand même cette folie des cocktails de plus en plus qui nous viennent de partout. Vous avez parlé des apéritifs anisés, alors ils restent toujours d'actualité. Mais c'est vrai que avec toute cette tendance de nouveaux modes de consommation, on mélange d'ailleurs de l'alcool avec des sans-alcool aussi, hein, puisqu'il y a une grande mode sur les mocktails. Apéritif ne veut pas forcément dire être bourré.
Les mocktails, vous appelez ça les mocktails? Moi, je connaissais pas.
Oui, les mocktails, en fait, ce sont des boissons qui sont sans alcool et qu'on peut fabriquer à partir de thé glacé, de jus de fruits. Alors, ça fait rire Denis, parce qu'en fait, Denis, pour vous, l'apéritif, c'est forcément...
Mais pas du tout! C'est Frédéric qui ne connaît pas les boissons non alcoolisées.
C'est ça qui le fait.
Évidemment, tout ce que l'on vient de dire depuis 5 minutes, c'est à consommer avec modération, bien entendu. Évident.
Toujours avec modération, oui.
Alors, il y a des recettes délicieuses hein, d'apéritifs dans le Cuisine et Vins de France hors série de l'été qui m'a passionnée, Sophie, je dois vous dire. Je vais me lancer,
c'est
moi.
Gentil.
Ouais, il y a des bruschettas d'endives au parmesan et romarin, il y a des flûtes feuilletées au reblochon, des samosas aux chèvres, des sablés à la purée de carottes et coco. Tout ça est très facile, on a envie de se lancer et de faire plaisir aux autres.
Mais il faut se lancer. Parce que beaucoup de nos recettes de ce magazine-là sont vraiment faciles justement pour qu'on ait plus de temps pour l'apéritif.
Vous savez quoi, Sophie Menu, rédactrice en chef de Cuisine et Vins de France, ce qui serait bien, c'est qu'on prenne l'apéro.
Oui, on se voit à l'apéro,
ensemble.
Sophie.
Ah bah écoutez, banco, moi je viens avec les boissons, je viens avec les tapas, les mezzés, et on fait ça quand vous voulez.
Avec grand plaisir. Je vous recommande vraiment ce hors-série de l'été Cuisine et Vins de France. Il y a tout pour l'apéritif, on l'a vu, mais il y a les cocktails aussi, hein, dont nous a parlé Sophie quelques instants. Il y a des recettes à retrouver dans le magazine, pique-nique, barbecue, tout ce qu'il faut, tout ce qui va bien pour l'été.
Et puis, il y a le numéro Cuisine et Vins de France classique, si j'ose dire, juillet-août, avec par exemple, tout un menu au barbecue.
Dernière question, Sophie.
Exactement. Qui va sortir dans quelques jours. Excusez-moi, Frédéric.
Non, je vous en prie, Sophie. C'est vrai que nous, on est en avant-première, on l'a déjà eu. Mais Sophie, vous faites un apéro ce soir pour le match des Bleus?
Mais bien sûr que je fais un apéro. Je suis d'ailleurs déjà habillée en bleu, blanc, rouge.
Wow.
Et je vais leur dire chin-chin avant qu'elle se lance.
Apparemment, ça vient du chinois, hein, chin-chin. Tsing-tsing, qui veut dire salut.
Exactement. Bravo, Denis, pour votre culture. Et le mot apéritif, on en a pas parlé, viendrait de l'italien, qui veut dire ouvrir. En fait, ouvrir l'appétit en dégustant, justement, des bonnes choses.
On va encore se coucher moins bête ce soir.
Encore une fois. Mais écoutez, chin-chin, Sophie. Et merci.
Chin-chin à vous. À bientôt,
Denis et
Frédéric.
Au revoir. Bel été à vous, Sophie.
Au revoir. Merci.